French Connection, nous allons faire une émission spéciale sur l'événement Facebook qui occupe beaucoup l'espace médiatique présentement. Et qui d'autre que Damien pour en parler, puisqu'il était un des premiers à brasser le drapeau médiatique à ce sujet-là.
Salut tout le monde, salut Nicolas.
Salut. Alors, qu'est-ce que tu as vécu et comment tu as découvert ça?
Alors, il faut savoir que déjà depuis, allez, on va dire la mi-septembre, une rumeur dans des zones plus ou moins sombres de l'Internet asiatique annonçait la possibilité de jouer avec des comptes Facebook. Alors, jusqu'ici, les rumeurs, hein, tu sais comme moi, que sur Internet, il suffit de lancer un mot pour qu'à la fin, on se retrouve avec un livre de 600 pages. Donc, ça veut strictement dire, strictement rien dire. Hein, voilà. Sauf que le 26 septembre est apparu un Taïwanais. Alors, ce Taïwanais est connu. Il est connu parce que il promène, on va dire, ses baskets dans des zones troubles du black market, mais aussi, il avait fait parler de lui dans son pays parce qu'il avait réussi à mettre la main sur un important réseau de transport. Et il avait été connu parce qu'il avait été arrêté et que la justice lui avait un petit peu tapé sur l'épaule, hein, pour lui rappeler que la cybersécurité, en tout cas faire du hacking, ça demandait quand même des règles et pas tout et n'importe quoi. Donc voilà, et donc cet informaticien, ce hacker, pirate, hacker, on ne sait pas trop en fait. Hein. Son nom c'est Shang Shi Yuan, désolé pour la prononciation, hein, mon chinois est un peu rouillé. Annoncé le 26 septembre, tout de go, en disant ben voilà, j'ai une super faille sur Facebook, je vous la montre dimanche 30 septembre. Et comment je vais vous la montrer? Eh bien, je vais tout simplement effacer le compte Facebook de Mark Zuckerberg. Autant dire qu'à partir de ces éléments-là, on commence à écouter d'une oreille un petit peu plus, allez, on va dire, sérieuse, parce qu'une annonce publique, surtout dans ce genre de milieu, c'est aussi un moyen de faire un énorme coucou à l'entreprise en disant, ben voilà, on a une faille, et si on parlait argent? Je vais être très clair avec vous, il aurait pu faire partie du Bug Bounty, il l'a fait d'une manière un petit peu plus virulente, d'autant plus qu'il a été repéré, assez rapidement, des propositions, allez, on va dire de vente d'un zero day sur Facebook, et ça je l'ai vu de mes yeux, testé par des, on va appeler ça des boutiques de pays de l'Est, proposant des rendez-vous intimes, charnels, voire clairement pornographiques sur des sites de pays de l'Est, dont la Russie. Et comment ça fonctionnait? C'est que des comptes légitimes, et j'en ai été le témoin sur deux comptes légitimes, deux jeunes filles, alors deux asiatiques, hein. Alors quand je dis jeune fille, je vois déjà les oreilles se tendre, elles étaient toutes majeures, mais une était de religion musulmane, donc clairement ce qui a été diffusé, j'ai trouvé ça détestable parce que ça pouvait nuire à sa religion, ça pouvait nuire à sa façon de penser, et encore pire au regard des autres par rapport à elle. Et donc cette manipulation a fait que, sans utilisation de phishing, hein, quelqu'un a réussi à prendre la main sur son compte pendant cette diffusion, cette démonstration, et a commencé à diffuser des publicités donc pour ces fameux sites pornographiques russes. Voilà, donc ça a commencé à véritablement bruisser, et donc cette publicité, en annonçant d'une manière assez radicale sur Twitter, sur Facebook, donc le fameux Chang, Shi Yuan, je vais donc effacer le compte de Mark Zuckerberg, venez dimanche, et je vais vous le faire en Facebook Live. Bref, voilà, ça a commencé à bruisser là.
Quelle arrogance.
Oui, c'est ça, ben, c'est ça le problème, c'est qu'on a aussi beaucoup de populations qui ont, hein, comme je dis tout le temps, c'est souvent l'occasion qui fait le larron, et que si on n'a pas l'éducation, l'éducation mentale, intellectuelle, sociale, de faire ça proprement et efficacement, on se retrouve avec des gens qui ont, peut-être le terme est fort, mais une arme numérique dans la main qui pourrait faire de gros dégâts. Et donc là, je dis... On a clairement du bruit venant de la société américaine, hein, Facebook. Hein, clairement, des populations autorisées et internes commencent à dire il y a quelque chose qui va sortir. Ça n'a pas loupé. Vendredi matin, a commencé à y avoir des reboots, hein, des reboots de Facebook dans des téléphones portables et des consoles de jeux. J'en étais le témoin. Vendredi matin, 6h, je prends mon téléphone pour regarder comment va Québec, comment va la France, comment va le monde. Et mon Facebook, clairement, je ne pouvais plus y accéder. J'ai clairement eu un reset de mon Facebook. Et puis là, clairement, en me disant, bah, votre session est terminée. Donc là, je suis un paranoïaque aigu, ce téléphone n'est dédié qu'à ça. Donc du coup, je l'éteins très rapidement, je vais savoir ce qui se passe. Je le relance, Et je vois que là, on me redemande mon mot de passe, on me redemande ma double authentification, hein, donc par un moyen qui est proposé, mais en tout cas qui me permet donc de justifier que je suis bien le propriétaire du téléphone et du compte Facebook. Et là, je me retrouve avec un Facebook anglais. Hein, je suis donc francophone et français. Et là, clairement, tout est en anglais. Tout est en anglais. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le téléphone que j'ai en main qui a été acheté aux États-Unis ? J'en sais rien. Toujours est-il que cet étonnement m'est apparu. Donc, mon Facebook est revenu. Et on va dire, dans l'heure et demie, premier message que je reçois par mail en me disant « ça y est, communication ». Et là, c'est parti. Dans l'après-midi, Mark Zuckerberg commence à parler sur son Facebook, qui, pour rappel, il n'est pas des plus connus pour faire de la communication, ce monsieur. Toujours est-il que sur son Facebook et son compte personnel, il dit très clairement, il y a eu un problème de sécurité, voilà tout ce qu'on a mis en place. Et ensuite, les communiqués de presse. Les communiqués de presse en France sont arrivés là aujourd'hui, hein, enfin, quand je dis là aujourd'hui, au moment où nous faisons ce podcast spécial, donc samedi. Et samedi matin, donc voilà, les communications ont commencé à arriver, sachant que les communiqués de presse, là la communication de Facebook a été efficace, hein, les communiqués de presse en direction des journaux sont partis, Reuters, Bloomberg, d'abord aux États-Unis et ensuite Boule de Neige en France avec l'AFP. Ça n'a pas loupé, hein. Facebook a clairement d'abord en priorité de préserver ses dollars et ils ont alerté d'abord la presse économique américaine parce que dès que c'est apparu, Facebook a perdu 3% à Wall Street. Hein, soyons très clairs, c'est là où on découvre que le piratage informatique aujourd'hui à cette échelle-là internationale qu'est Facebook, on ne parle pas publicité, on parle effectivement du client parce que nous sommes des clients, nous sommes des utilisateurs qui ne sont que des numéros et qui sont aussi l'outil qui permet de faire comprendre aux annonceurs mais surtout aux actionnaires que tout va bien. Et là, piratage qui n'a touché que 50 millions de personnes, les chiffres aussi me paraissent tellement dérisoires. C'est peut-être vrai, hein, attention. Hein. Mais je ne sais pas si vous imaginez, avec une faille qui avait 5 jours, comment on sait ces 50 millions de personnes ? Ça veut dire que les gars avaient déjà mis en place un petit JavaScript ou plutôt un petit code Python qui était déjà en train d'égrener un par un des comptes Facebook pour pouvoir y accéder. Pourquoi ? Pour faire un mass défense ou alors tout simplement un mass publicité pour Noël, pour diffuser du porno, pour diffuser des casinos, pour diffuser des sites de rencontres, on n'en sait rien. Donc ça veut dire que si on a un chiffre précis donné par Facebook, c'est que ces 50 millions de comptes ont été très certainement impactés par une infiltration, par certainement un bot. Je vois mal un humain avec sa petite souris faire clic et d'un, clic et deux, clic et trois. Non, c'est obligatoirement automatisé.
On est rendu à l'industrialisation de ces éléments-là. Donc quand ça part en fouille de façon là, très impressionnante. Tu parles de 50 millions, mais j'avais lu aussi qu'il y a 40 millions supplémentaires qui avaient des doutes raisonnables, donc ils ont justement reseté le jeton d'authentification pour permettre ça. Fait que ça ferait à peu près 90 millions dans lequel il y a un doute raisonnable.
J'ai pas de chance, j'étais dedans. C'est ballot quand même. Mais bon, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent comme chiffre. Après tout, on pourrait se dire, allez, on va dire 100 millions. 100 millions sur 2,4 milliards d'utilisateurs, c'est peanuts, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans un monde virtuel qui s'approche plus du bug que de l'infiltration malveillante. Ouais, mais 3% en moins en bourse, plus l'impact médiatique, plus dans une période où le petit Marc il est plutôt chahuté à droite à gauche par toutes les communications diverses et variées. Et puis ça touchait aussi la sécurité à proprement parler, parce que justement le double jeton, la double authentification était impactée par ce vol, ce détournement de token. Donc du coup, on se rend compte que cette double authentification, elle ne sert à rien. En tout cas, elle ne sert à rien sur Facebook. Et oh tiens, il y a une semaine, des chercheurs expliquent que la double authentification sur Facebook sert aussi à collecter des numéros de téléphone et les contacts des gens qui l'utilisent. Comme on dit par chez vous, what the fuck? Il y a un problème, les gars. Là, on se rend compte qu'on est en train de nous foutre à poil.
Ah, mais les intérêts de Facebook ne sont pas alignés avec l'intérêt de ses utilisateurs. Là.
Ah, mais clairement. Et surtout que ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2011. Il y avait déjà eu un détournement dans ces... Alors, ce n'était pas du tout le même outil hein, qui était le fameux View qui permet de savoir comment les internautes puis, qui ne sont pas amis avec vous sur Facebook... peuvent voir votre page. C'est en 2011, si je me souviens bien, et déjà des hackers, parce que là, je les considère plus comme hackers, ils ont voulu communiquer un problème et surtout envoyer un petit message à Zuckerberg en lui demandant que sa société soit un petit peu plus sociale et un petit peu moins dévoreuse de données et de nos vies numériques. Et en 2011, ils avaient déjà mis un message sur son compte. Non seulement lui a oublié, mais nous aussi, on avait oublié. là, peut-être que se préparer quelque chose de beaucoup plus virulent. Et je vous avoue, je suis impatient de voir maintenant si il n'y a pas eu des rebonds, failles ou déjà infiltrations, parce que si les gars, ceux que j'ai pu voir, ont véritablement la capacité d'interagir sur des comptes comme ils nous l'ont montré, comme ils l'ont montré dans cet espace de vente, hein, soyons très clairs, ça va être intéressant à suivre, parce que ça veut dire que le Noël qui arrive risque d'être très très chaud, parce que quel est le meilleur moyen de mettre le boxon sur un réseau social? C'est là où quasiment tout le monde est connecté pour se souhaiter un joyeux Noël et une bonne année.
Ouais, ça va rassembler beaucoup de choses, parce que ça présage pas bien pour ce genre de choses-là. C'est sûr qu'on va... Ça va continuer. Je suis pas convaincu qu'ils ont tout trouvé du coup. Je suis pas convaincu si c'est déjà justement c'est des failles de plus grande ampleur que qu'est-ce qu'on peut voir jusqu'à présent. Il y a peut-être des surprises qui vont nous attendre d'ici Noël.
Et alors, donc, gros avantage. Ouais, excuse-moi, Nicolas.
Ouais, ben c'est ça. Puis Facebook ne fait que des erreurs parce que je pense que les appétits sont mal alignés. Si les appétits étaient vraiment à protéger les informations de leurs utilisateurs, on n'enverrait pas ce genre de problème-là. Mais l'appétit est un appétit de commercialisation des informations de l'utilisateur. Donc, une fluidité qui favorise l'exploitation de ce genre de choses-là.
Alors, on lui tape. Alors, je vais faire le témoin du diable. On lui tape énormément dessus, quand même, sur Facebook. Hein. Je suis un gros consommateur de Facebook. Moi, j'aime ce réseau social. Peut-être parce que je maîtrise aussi ce que je diffuse. Hein. Je ne diffuse pas tout et n'importe quoi, même si on sait qu'il y a énormément de collecte autour de données qu'on n'imagine pas. OK, pas de problème. C'est oublier quand même le reste. Hein. C'est oublier tout ce qui est autour. La Facebook, vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Déjà ça, vous ne voulez pas donner d'informations, vous ne le faites pas. La double authentification, quand vous donnez votre téléphone, on vous demande de fournir vos contacts. L'intelligence, c'est de dire, je n'ai pas envie de te donner mes contacts, tu n'auras que mon numéro de téléphone, point barre. Voilà, il y a aussi le consommateur, l'utilisateur que nous sommes, qui doit réfléchir à ce qu'on lui propose. On a des sublissimes outils, à nous aussi de les regarder d'un peu plus près, pas comme des... Pardon du terme, hein, mais Internet étant un grand village, on ne consomme pas ça comme des idiots du village. Mais c'est aussi oublier tous ceux qui sont autour de ces hémisphères informatiques, ces entreprises qui fuitent. Mais quand je dis qui fuitent, à côté de ça, les plombiers ne peuvent strictement rien faire. J'ai un exemple très concret. Depuis quelques jours, je travaille sur un dossier ici en France, mais je pense que ça touchera mes amis québécois, comme ça touchera très certainement des Suisses, des Belges. J'ai un pirate dans le black market qui vend en ce moment une base de données de 10 millions de clients d'une grosse société de vente en ligne francophone. Alors, j'ai réussi à le rentrer en contact avec lui, il m'a envoyé un échantillon, ses noms, prénoms, numéro de téléphone, mot de passe, IP, pour certains, géolocalisation, etc. Ça aussi, c'est de la donnée. Hein. Pourquoi toutes ces informations? Tout ça parce que j'achète, je sais pas, moi, là, ça va être le grand moment d'acheter, comment ça s'appelle, ce sublissime jeu de chez Ubisoft, Assassin's Creed Origins. Pas de la pub, hein. Mais voilà, tout le monde peut se jeter sur ça. Pourquoi une boutique a besoin de connaître ma géolocalisation? Pourquoi a-t-elle besoin de connaître mon âge? Pourquoi voilà, donc... Et ce pirate est en train de tout vendre. Alors là, les dernières ventes, il proposait 0,5 cents la personne. Il m'en annonce 10 millions. Ça fait du 500 000 euros, donc 400 000 dollars canadiens. Voilà, on tape sur Facebook. Mais si on commence à s'amuser à additionner toutes les fuites de données suite à des piratages ou des fuites complètement débiles, je prends des exemples que j'ai encore traités cette semaine, où on a accès aux factures depuis 2004 de certaines cyberboutiques, ça fait 14 ans de factures avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des adresses, des mails. Eh bien, je suis désolé, hein. OK, on va taper sur Facebook parce que ouais. Le mec, il pèse 2,4 milliards de clients. Mais si je commence à m'amuser à additionner toutes les boutiques, tous les sites internet qui fuitent, je crois qu'on est complètement dépassé par les événements et que ce n'est pas une loi comme le RGPD qui va sauver le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, si Facebook a communiqué aussi rapidement, c'est qu'il y a justement du RGPD dans le truc. Hein.
C'est, qu'il y a c'est ce que j'ai posé comme question. Là, c'est quoi l'espace? Parce que tu dis que tu es affecté comme citoyen européen. Là, ça devient dangereux pour Facebook.
Ah bah oui, parce que là, comme j'étais affecté... alors, je ne sais pas si j'ai été touché par une infiltration, mais à première vue, je fais partie de ces 50-90 millions de personnes à qui on a demandé de resetter son login et son mot de passe. Donc, ça veut dire que dans ces 50-90 millions de personnes, il y a très certainement des Français. Et donc, comme le RGPD impose aujourd'hui une société qui a des problèmes d'infiltration et de fuite de données d'alerter, Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été aussi efficaces. Ils ont, je pense, 3-4 DPO, hein, soyons très clairs. Plus 3-4 avocats.
Oui, ben, ils ont des armées de gens pour faire ce genre de choses-là. Puis là, c'est bien. Ça, c'est le côté intéressant du RGPD, parce que si on remonte quelques années en arrière, Facebook ne se serait pas empressé de régler ou de diffuser. Puis là, c'est quand même Mark Zuckerberg qui a parlé. Ce n'est pas une petite personne de relations publiques. Là. Fait que c'est quand même...
Ah non, c'est clairement lui qui a fait « Hey, je souhaite vous informer d'un problème de sécurité important que nous avons identifié. » Ouais, OK. Ben voilà. C'est... Après tout, il a eu son rôle de patron. Ça, c'est loin d'être négligeable. Cet homme intouchable a pris le courage à deux mains, si on peut appeler ça comme ça, en disant « Bon, bah, ok, je vous mets sur la table qu'on a eu un problème, mais ça prouve que l'informatique n'aura jamais 100% de réussite en cybersécurité. » Et c'est bien, c'est qu'ils expliquent qu'on avoue. Alors, est-ce que la loi lui oblige aussi un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête en lui disant « Ah, il va falloir parler, Coco, quand même, parce que là, je pense que la justice, tu dois commencer à en avoir soupé. » Donc, il aurait très bien pu, comme tu dis, faire appel à ses attachés de presse. Et ils auraient fait leur boulot. Non, il a dit, on a eu ce problème. Tout ce qu'on a mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi annoncé qu'ils ont corrigé les nouvelles mesures de sécurité par précaution, c'est plutôt intéressant. Donc, ça montre aussi que tout le monde sur les internets, on est tous sur le même pied d'égalité. On a tous des pieds d'argile face à une faille, un bug ou un malveillant qui est volontaire.
Oui, dans ce cas-ci, c'est sûr, comme tu disais, le Facebook, c'est l'éléphant dans la pièce, dans lequel c'est sûr que c'est plus facile de s'y attaquer, de le prendre. Mais en même temps, c'est un exemple public auquel les autres organisations vont voir qu'ils ne sont pas épargnés, puis ensuite ça va descendre, puis tu peux être
ton cas
de 10 millions. Là.
J'espère franchement, Nico, hein, que ça soit le cas, parce que quand je vois le nombre d'entreprises, là, je conversais avec pas mal de gens. On a un énorme problème aussi, c'est qu'on adore regarder au-dessus de l'épaule du voisin et se foutre de sa tête en disant « Facebook faille, piratage, oh c'est moche !» Et puis bizarrement, les gens oublient de regarder dans leur petit périmètre à eux en se disant « Mais pourquoi moi ? Et puis moi je vais pas me faire avoir, j'ai audité, et puis moi j'ai pas de données sensibles. » Oui, non, si. Le fait déjà de pouvoir permettre à un internaute de rentrer son mail, c'est déjà une donnée personnelle et sensible, parce que son mail me permettra de remonter à lui. Je vais te prendre un exemple très concret. Il y a 15 jours, s'est fait pirater une entité gouvernementale française dédiée à l'environnement. Et le pirate, comme d'habitude, après avoir fait son petit business dans le black market, a diffusé ça sur Pastebin. Et dedans, tu avais des mails et les mots de passe. Alors, dans certains mails, tu avais des mails du gouvernement. Donc ça, c'est très rapidement à corriger, mis en place. Ils ont été super efficaces. Sans faire cocorico, en France, on a vraiment maintenant des entités comme l'ANSSI d'une efficacité redoutable. On a aussi des gens dans les ministères qui sont à une écoute. J'exagère quand je dis à la seconde, mais c'est vraiment à la minute. Et donc, je reviens sur ce cas de piratage de cet espace gouvernemental dédié à l'environnement. On avait donc des sociétés qui participaient, par exemple, à la newsletter. Certains avaient mis, je prends l'exemple, Damien @, le nom de la société et leur mot de passe. Et d'autres avaient pris leur mail personnel, mais le mot de passe était le nom de leur entreprise. Alléluia, les gars! Moi, je suis un pirate, mais non seulement je sais quelle est ton entreprise, mais en plus, j'ai ton mail personnel. Je donne des cours de social engineering. Je pense que ces gens-là devraient voir carrément le béaba du social engineering pour leur expliquer que déjà, on ne met pas le mot de passe de son entreprise. Et puis ensuite, on va éviter de mettre son mail personnel avec une entité dédiée à son entreprise. Du coup, ça va me permettre de t'envoyer des mails. Je ne sais pas, moi, voici une réduction sur un site casino, football, mode, peu importe. Et puis, tu vas cliquer dessus parce que comme tu le reçois à la maison, tu ne fais pas gaffe. Sauf que moi, comme je sais que tu travailles pour une société qui m'intéresse, eh ben, je suis déjà un pied dans la place.
Oui, entre autres ça, puis j'avais vu, c'est la semaine dernière, je crois, c'était au Sénat américain qui ont vécu un problème similaire à celui-là, c'est-à-dire qu'au lieu de s'en prendre aux courriels corporatifs des sénateurs et leur personnel proche, ils s'attaquaient aux courriels personnels de ces gens-là, dans lesquels ils sont beaucoup moins sécurisés, qui généralement n'ont pas de deuxième facteur, que généralement ils ne mettent pas les mêmes mesures, et comme ils sont à la maison, toutes les mesures de sécurité dans lesquelles sont habitués au travail ne le mettent pas en place à la maison, donc sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus sensibles.
J'appelle ça le syndrome Hillary Clinton. Tous ces gens ont oublié ce qu'a mangé Hillary Clinton pendant les élections parce que la petite dame avait transféré ses mails sur son Gmail. C'est exactement pareil. On n'embarque pas le travail de la maison sur un compte de la maison ou personnel. Il y a le monde du travail et sa vie personnelle. Et le numérique, aujourd'hui, si on n'y fait pas gaffe, ça se regroupe de plus en plus facilement et rapidement. Et que les malveillants, pour ceux qui ont la chance de venir à Québec pour le Hackfest, je vais participer entre autres au concours de social engineering. Mais venez voir ce que c'est qu'un social engineering, rien que par téléphone. Pour comprendre que votre secrétaire, aussi adorable soit-elle, mais aussi votre technicien ou vous, patron, on peut vous faire faire n'importe quoi avec un beau sourire et un accent français.
L'accent français est facilitant dans ce contexte ici, effectivement.
C'est court, mais
ça passe, ça permet des passe-droits assez intéressants, mais effectivement, ce engineering, ça tue, ça fait longtemps que ça tue. On peut remonter aussi vieux que les films classiques comme Hackers ou même War Game étaient des films où on utilisait énormément ces notions-là, puis ils ont rentré comme, puis ça fait 20, 30 ans qu'on en parle et le message n'est pas encore rentré dans la tête des gens.
C'est ça. Ben, le problème, c'est qu'on a eu pendant 25 ans des films qui étaient plus de la science-fiction que la réalité. On commence à avoir des sans être péjoratif, hein, mais des utilisateurs lambda qui commencent à être un petit peu touchés par l'informatique ou la cybersécurité quand on regarde Mr. Robot, mais quand on prend aussi, je sais pas, Watch Dogs, à Québec, une société est en train de travailler sur un jeu vidéo dédié à la cybersécurité. On en reparlera d'ailleurs, je pense, lors du Hackfest. Voilà. Mais depuis 25-30 ans, tout ça n'était que de la science-fiction. Joshua, dans War Games, quand on voyait un homme avec son téléphone et ses câbles qui pouvait lancer des bombes, des missiles nucléaires, bon, à l'époque, c'était de la science-fiction. On prend Terminator 2, quand vous avez John Connor qui se met devant un distributeur de billets avec son petit ordinateur Atari où il met un câble et puis il voit les mots de passe égrenés. Il y a 25 ans, quand l'argent sortait et que le jeune acteur faisait argent facile, c'était de la science-fiction. Mais il faut rappeler que ça, c'est du skimming et que le skimming, aujourd'hui, on n'a plus besoin de câbles.
On n'arrête pas le progrès, puis c'est malheureusement pas seulement du côté des défenseurs, mais plus des attaquants que ça avance.
Ben les attaquants, eux, ils ont un calcul qui est très clair. Hein. Combien va leur coûter leur attaque? Combien elle va leur rapporter? Le ratio est malheureusement en leur faveur. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Hein, fabriquer un ransomware, on a des sites dans le black market ou dans le darknet, mais aussi sur le web, hein, pour ceux qui savent les trouver mais qui ont les accès, qui permettent de fabriquer un ransomware en 10 secondes. Aujourd'hui, fabriquer un ransomware, n'importe qui peut le faire. Il y a 10, 15 ans, il fallait certaines connaissances, il fallait avoir une manipulation informatique. Aujourd'hui, une nuisance numérique, regardez une attaque DDoS, un DDoS. Un DDoS, vous prenez n'importe quel site internet qui propose ce service pour $4, vous embêtez n'importe qui pendant 120 secondes. Voilà, il faut évoluer avec ce monde, et comme je dis tout le temps, hein, et merci de nous écouter, mais s'informer, c'est déjà sécuriser.
C'est déjà un excellent début, puis ça me fait penser qu'à une époque, on avait développé une traduction libre des trous de goudron là, pour faire ralentir ce genre de choses-là. Puis vois-tu, cette notion-là a complètement disparu depuis déjà un bout de temps, là, dans lequel les DDoS seraient probablement des belles places à mettre dans un trou de goudron. Là.
C'est tellement bien. Et puis je vois, je rencontre pas mal de mômes. Là, j'ai fait pas mal de conférences ces derniers jours dans des écoles. En nous, on appelle ça des écoles primaires, ce sont des collèges. Et des collèges, donc c'est, on va dire, de 9 ans à 14 ans. J'ai des mômes 10, 11 ans qui sont déjà capables d'expliquer ce qu'est un DDoS, de savoir en faire un, de me trouver le stresseur qui va permettre de les lancer. Et ils m'expliquent, c'est quand je suis dans un jeu vidéo, ça permet d'attaquer un serveur où j'ai été ban, etc. Ben voilà, il y a aussi cette notion du crime informatique comme nous on entend, hein, parce qu'un DDoS, c'est par exemple un concurrent qui va vouloir bloquer une boutique au moment des soldes, mais pour des mômes comme ça, c'est juste lancer une boulette de papier à un mec dans la classe parce qu'ils se sont mal regardés. Voilà, donc du coup, ça devient très très compliqué d'expliquer que ça paraît fun. Je sais pas si vous vous souvenez de cette boisson qui s'appelait le Canada Dry, où on disait « ça a le goût de l'alcool ». Ça a la couleur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Eh ben, le DDoS, le piratage informatique, chez les enfants, il faut leur expliquer ça. Ça a l'air fun, c'est fun à faire, mais ça l'est pas fun.
Non, c'est ça. Puis les dommages dans lesquels on s'expose maintenant, c'est pas la même notion que de lancer une boulette à ton voisin de classe versus faire tomber un site ou faire paralyser des systèmes qui peuvent être des fois des systèmes critiques et peuvent mener à des conséquences beaucoup plus graves. On est mal... mal renseignés. Les jeunes sont beaucoup mal renseignés. Ils pensent qu'ils vont juste donner comme faire un graffiti sur un mur, quand dans les faits, les effets sont beaucoup plus dommageables maintenant. Là.
Donc voilà, Nico, ce qu'on pouvait dire sur cette affaire Facebook, je pense qu'elle va soit s'éteindre tout doucement, comme une petite bougie qui descend tout doucement, et puis on va passer à une autre chose, les gens vont oublier. Ou alors, je te dis, et ça je ne l'espère franchement pas, hein, parce que ça pourrait découler sur des choses beaucoup plus graves en tout cas, il faut espérer que d'autres n'ont pas une continuité de cette faille et d'autres possibilités, parce qu'on se rend compte quand même que même 50 ou 90 millions de personnes affectées aussi, surtout, qui pourraient servir de vecteur et un rebond à une attaque, juste à la diffusion d'un ransomware, pensons à WannaCry par exemple, je pense que là, on rigolerait beaucoup moins.
Ouais, mais c'est la mécanisation et l'enchaînement de ces problèmes-là qui vont découler. Malheureusement, je crois qu'on va voir des rebonds de tout ça. Là, je pense pas que la chandelle va s'éteindre tout doucement. Je pense que, surtout que Facebook est dans un mauvais espace. Même le bruit de la nomination du juge aux États-Unis n'est pas suffisante pour faire passer ça sous le radar. Donc, je pense que on aura d'autres rebondissements à discuter dans les prochaines semaines à ce sujet-là, peut-être même au Hackfest d'ailleurs.
Oui.
Donc sur ça, ça complète et on vous souhaite une bonne semaine.
Bonne semaine à tout le monde. Ciao, ciao. Thank you.